LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Vous voyez, le jour a baissé. Vous savez comme les gens sont beaux la nuit, c'est comme Paris. Paris est très beau la nuit, débarrassé de sa graisse que sont les voitures. J'avais coupé le monde en deux. J'étais tombé amoureux des gens de la nuit. Je passais mon temps à boire, à jouer, à fumer.
Et je trouve que de nuit, c'est un autre rythme en fait. La ville est éteinte, il n'y a pas un bruit, on sort dehors, il n'y a pas de lumière. Enfin, on sent vraiment que c'est feutré comme ça. Et donc c'est comme si le moment était que pour nous.
La nuit, souvent, je fais des gardes. C'est du travail noir, c'est très mal payé. Puis quand j'ai un peu d'argent, je le dépense. Je sors, je vais dans des boîtes. Vous n'allez pas dans les boîtes?
Non, pas beaucoup.
Vous n'aimez pas?
Je ne sais pas. Pourquoi allez-vous dans les boîtes?
Pour danser, j'adore danser. Pour boire, pour être avec des gens, pour ne pas être seul.
On a l'impression de repousser un peu les limites de la vie, de la mort, d'être dans quelque chose qui ne finit pas et qui est prolongé jusque tard.
La nuit au travail. Ferme les yeux. Juliette Boutillier, François Test.
Quand je me réveille de façon inopinée, c'est-à-dire sans... C'est en pleine nuit, a priori pas de raison, je me réveille. Je me réveille, c'est...
Je m'envole.
Quatrième épisode, nuit rose au service de la fête.
La nuit est douce, douce, douce. La nuit est douce, douce.
I'm waiting for the night.
Bonjour.
Bonjour.
Moi. Morgane et Fiona.
Enchantée.
Et Lova.
Des comptoirs aux portes des clubs jusque devant les platines. Nous rencontrons des travailleurs de la vie nocturne qui proposent aux noctambules une alternative festive aux contraintes du jour. De Toulouse à Paris en passant par Bruxelles, ils fabriquent ambiance, liesse, plaisir, exaltation des corps, au détriment parfois de leur propre liberté corporelle ou financière. Ici, dans la loge du Flashback Café à Toulouse, Lova la Diva et ses deux comparses sont en pleine chrysalide pour un bingo drag queen. Dans les miroirs, les visages masculins s'effacent à coups de pinceau et comme dans le film La maman et la putain, on a envie de dire « Vous savez comme les gens sont beaux la nuit ?»
Moi je m'appelle Sébastien et quand je me transforme, mon métier c'est Lova la Diva.
Moi, je m'appelle Jérémy et ce soir, je serai sur scène Morgan Taylor qui interprétera Pink, la chanteuse. Voilà.
Et moi, je suis aussi Jérémy. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ma copine, parce qu'on a le même prénom en garçon. Et quand je suis sur scène, j'ai un petit nom très, très charmant. C'est Fiona Delfion.
Où est-ce que vous en êtes? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le maquillage, la base?
Alors, pour ma part, j'ai fait ma base de fond de teint. J'ai travaillé les ombres et les lumières, ce qui est important quand on fait aussi de la scène, pour que le maquillage ressorte bien.
C'est ça le vrai travail, là, se maquiller. Là, ça commence, là, c'est le vrai...
Oui, c'est ça.
Quand on prend notre temps pour avoir un maquillage bien propre et tout, on met à peu près 2 heures, ouais, voilà. Mmh. 2 heures de maquillage, mmh. Et puis après, il y a l'habillage, coiffage, voilà, tout ouais. Ce qui va avec.
Planquage aussi, parce que c'est important. On est obligé de planquer nos parties. Parce que c'est une version exagérée, on va dire.
Le drag, en fait, il n'y a pas de code. Voilà. Il n'y a rien qui va dicter ce que tu dois faire quand tu es drag. En fait. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Poilu, pas poilu, planqué, pas planqué, avec des maquillages différents, avec des perruques, sans perruques. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut.
C'est la partie où on est le plus calme, où on se concentre vraiment. C'est très très important d'avoir un moment de calme avant la folie. C'est ça. Et croyez-moi, ça va souffler le vent ce soir.
Je suis Loki Starfish, je suis musicien, DJ et organisateur d'événements. Je fais l'organisation d'événements depuis 10 ans et je fais de la musique depuis déjà plus de 20 ans.
Et moi, j'aimerais savoir ce que représente d'abord pour vous la nuit. Qu'est-ce que ça représente ?
Pour moi, ça représente des espaces de liberté, une forme de réalité dont on pourrait dire qu'elle est parallèle, enfin qui est un peu en marge, qui se passe souvent dans des endroits clos ou dans des espaces auxquels le commun des mortels, entre guillemets, n'a pas accès forcément. Et pour beaucoup de communautés dont je fais partie, c'est un espace de liberté, un espace où on reconstruit un genre de monde idéal et qui est un espace salutaire pour beaucoup de personnes. C'est vérifié aussi pendant le Covid et encore plus, oui, depuis. On a l'impression de repousser un peu les limites de la vie, de la mort, d'être dans quelque chose qui ne finit pas et qui est prolongé jusque tard. Et on choisit soi-même quand est-ce qu'on arrête le process.
Vous parliez d'espace de liberté, alors pour quelle communauté ?
Les communautés LGBTQIA+, et aussi, comme j'organise des événements naturistes, une partie de la communauté naturiste. Voilà, essentiellement ces communautés-là, puis aussi les sphères artistiques et culturelles dans lesquelles j'évolue, qui sont un peu poreuses et interconnectées, interpénétrées.
Michael Fossel, philosophe et écrivain.
L'expérience nocturne, elle présuppose déjà que l'on y aille, que l'on accepte de la vivre et que donc tout ce qui relève de l'obscurité, de la fatigue, du caractère éventuellement dangereux de la nuit ou inquiétant de la nuit soit dépassé. Et par conséquent, il y a deux régimes d'expérience, ceux qui veulent ou confirment que la vie se joue le jour, si je puis dire, et ceux qui, alors par nécessité ou par choix, là évidemment il faudra distinguer, choisissent de s'abandonner à la nuit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, s'abandonner à la nuit ? Je pense souvent à cette formule, ou plutôt à ce vers de Supervielle. Nous sommes, la nuit nous transforme en étoiles consentantes. S'abandonner à la nuit, c'est déjà s'abandonner à un régime d'expérience dans lequel notre perception, en particulier de la perception visuelle, est altérée, est affaiblie. On voit moins bien la nuit, en tout cas dans une nuit qui ne serait pas complètement colonisée par les lumières artificielles. On voit moins bien, mais peut-être aussi ceux qui s'abandonnent à cette espèce de fragilité-là veulent ne pas être vus. Et donc, par conséquent, il y a ce qui m'avait intéressé dans ce livre, c'est de réfléchir à ce que la nuit représente en termes de désir, d'expérience, tout en tenant compte, évidemment, de ce qu'elle peut aussi contenir de contraintes, de difficultés, de douleurs, parce qu'il y a le travail la nuit, mais il y a aussi l'insomnie, qui sont des figures d'habitation de la nuit qui peuvent être éminemment douloureuses.
Et c'est parti pour le show, pour le...
Oh, j'avais oublié ça.
On va doucement.
Ouais, attends.
Et c'est parti pour le show, pour le bingo des pinkos. Et c'est parti.
Moi, j'ai commencé par exemple la nuit, mais en boîte de nuit où je faisais du posing. Du posing, c'est une... Enfin, on bouge sur la musique, clairement. Puis après, le drag a évolué et on a été obligé d'évoluer avec... on a suivi la cadence, mais tout en restant nous-mêmes. J'aime faire mon métier, parce que moi, mon métier, c'est de faire oublier le quotidien des gens.
Oui, alors ce soir, ici, on est où et vous allez faire quoi, là ?
Alors ici, on est au Flashback Café, et avec Morgane, on a créé le bingo des Pinkos, et tous les visuels et toute la communication a été faite par Mademoiselle Fiona Delphion. Et croyez-moi, l'odeur va avec le nom. Ça s'appelle un shade. Un shade, ça veut dire que c'est un petit pic qu'on pense pas, soi-disant. Et c'est notre métier de faire rire les gens.
Tu aimes bien châtier ?
Ouais, exactement. Mais comme je l'aime pas, je châtie quand même. Non, c'est pas vrai, je l'aime beaucoup. Moi, plus je fais rire, mieux c'est.
En fait, c'est pas, quand on dit qu'est-ce qui vous plaît dans la nuit, en fait, la nuit, je trouve que c'est... C'est dans le spectacle, en fait. C'est pas forcément la nuit. Et dans le spectacle, en fait, ce qui nous plaît, c'est de divertir les gens, mais de leur qu'on puisse leur changer les idées. Des fois, on a des gens qui viennent nous voir après le spectacle qui nous disent, en ce moment, ça va pas du tout bien. Et ce soir, en fait, vous m'avez fait oublier ma vie. Vous m'avez fait rêver, vous m'avez fait oublier mes problèmes, donc pour nous en fait tout est gagné quand c'est comme ça quoi.
Juliette, salut Juliette.
Enchantée.
On y arrive, bonjour.
Et là, qu'est-ce qui se passe là ici?
Donc
là,
ça c'est mon disquaire, donc c'est, y a, on a une artiste très connue bruxelloise, enfin, qui a une carrière vraiment internationale, qui s'appelle Alia, c'est la fille qui joue là, qui a un label. Donc c'est les disques que tu vois là sur le mur. Et donc ça c'est un artiste lyonnais qui a signé le disque. Et donc on fait une in-store session, c'est-à-dire qu'ils viennent jouer là. Et t'as tous leurs amis et tous les gens à Bruxelles qui s'intéressent un peu à leur musique et tout ça qui viennent kiffer quoi. Ça dynamise un peu ce lieu quoi.
Et si on veut te parler un peu après au calme, est-ce qu'on peut aussi...
Ouais, on a la cour derrière, si tu veux. On peut faire ça maintenant si tu veux.
Ouais,
comme tu veux, parce qu'après je veux boire des bières. Ouais.
Quitter Toulouse pour Bruxelles. Là-bas la vie est belge et la fête particulièrement humaine. Comme si la belgitude rendait le débordement plus fou, plus surréaliste, plus humble, teinté d'autodérision. Le vouvoiement s'efface. Renaud Derue, figure emblématique de la nuit bruxelloise, nous attend dans l'arrière-cour de son magasin de disques.
J'ai une casquette de DJ à la base, c'est vraiment là que tout a commencé pour moi. Passion de la musique et envie de la partager. Et ensuite... parce que j'étais pressé, je me suis dit, je vais organiser mes propres teufs, je ne vais pas attendre qu'on vienne me booker. Je vais organiser mes teufs et ce sera très bien comme ça. Je te parle, on était fin 90 et je parle à la française. Hein. Et en fait, après, le hasard a fait que j'ai eu l'occasion d'organiser une teuf au Mirano. Et on a fait 2000 personnes au Mirano ce jour-là. Et c'était incroyable. Moi, je faisais des teufs de 200 personnes d'habitude, tu vois. Et en fait, on a lancé un concept qui s'appelait Dirty Dancing et qui a eu lieu pendant 9 ans. De 6 ans, pardon. Là-bas, tous les samedis. Et ça a été un gros carton. Et puis de là, on a arrêté parce que, en fait, un cycle de club, ici en Belgique en tout cas, un cycle de club, c'est 6 ans. Et donc, on a fait ces 6 ans-là. Et puis de là, on est parti, on a lancé d'autres choses. Moi, je suis parti plus dans la production aussi, etc., etc. Enfin bref, et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ai sur mes 47 ans. Et je suis toujours dans la nuit, dans la musique et machin. J'ai un petit club là qui s'appelle Jalousie. Et le métier de la nuit, c'est... en fait, c'est un renouvellement permanent. T'es obligé de te renouveler. Il y a un truc qui marche pas dans la nuit, c'était mieux avant. Je m'entoure de jeunes sans cesse, je m'entoure de talents émergents. Je suis pas du genre à aller me faire un café avec mes bons vieux potes qui ont plus trop de bookings, qui trouvent ça dégueulasse. Les jeunes, si, ouais, et le vinyle, ouais, tu vois, et avant c'était mieux, rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Moi, j'essaie toujours de regarder en avant. Et voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe ici, hein, dans ce disquaire aussi, t'as vu, c'est que des jeunes, hein. Je suis là pour les écouter, pour les comprendre, pour essayer de comprendre. Pareil dans mon club aujourd'hui, Jalousie. J'arrête pas de dire sans cesse, moi j'essaye de rajeunir ma clientèle. Je préfère tège des mecs en chemise blanche, machin, qui débarquent à 45 ans et qui font leur sortie du mois et qui font... qui matent un peu les petites nanas et tout, qui sont des vieux mecs shady, dégueulasses, qu'on a pas envie de voir. C'est non, quoi. Ça, c'est plus possible. Et donc, c'est les jeunes, toujours les jeunes. Alors la fête, je dirais pas qu'elle était meilleure avant, parce que je crois pas. C'est juste nous qui vieillissons, enfin moi je vieillis et donc en fait très clairement je suis plus au milieu de la piste en train d'essayer d'exister comme ça. Mais j'existe aujourd'hui à voir ces jeunes au milieu de cette piste que moi je leur ai proposé et je trouve ça super gay quoi.
Hop là, je vous en prie.
Alors là, on est où? On est au fumoir.
On est au fumoir du club du Jalousie Bar. Moi, je suis le responsable de la sécurité. Je filtre les entrées. Je sélectionne la clientèle qui se présente à moi. Et voilà, pour faire en sorte qu'il y ait une bienséance, on va dire, au sein du club et que tout le monde passe une bonne soirée.
Ça fait longtemps que vous bossez là?
Ça va faire 9 ans que je bosse au Jalousie.
Et vos horaires alors, ça va être quoi? Là, il est quelle heure là aujourd'hui?
Il est 22h.
Ouais,
22h et on est parti jusqu'à 6h du matin.
Okay.
Les gens, ils rentrent, on va dire, dans le bar à partir de 22 jusqu'à 3h30, 4h. Et à partir d'un moment, on arrête les entrées. Donc là, ça sera juste du au revoir madame, au revoir monsieur. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se revoit plus tard, etc.
Et vous êtes assis, vous êtes debout
comment... Non, je suis debout devant la porte. Hein.
De 22 à 3 heures
Ouais.
C'est 4, pas fatigant
5. Si, quand même. C'est quand même, mais ça va. Il y a beaucoup d'interactions, donc on sent pas trop la fatigue. Le temps passe vite, c'est cool, quoi.
Et il vous arrive de refuser des gens le soir?
Bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. À toute personne qui n'est pas en état, qui est en état d'ébriété, qui... Vu que moi, je suis devant la porte, je vois ce qui se passe à gauche, devant moi et à droite. Donc ça veut dire que je vois les gens arriver. Et si je vois que les gens se comportent mal en rue, commencent à... Voilà, c'est déjà arrivé, commencent à choter dans les poubelles et tout, tout, tout. Ça donne une image qui n'est pas... voilà, si la personne consomme déjà de l'alcool... et jette la canette sur le côté et tout, ça c'est pas trop des comportements qu'on a envie d'avoir à l'intérieur du club. Il y a beaucoup de gens qui sont en état d'ébriété, qui n'acceptent pas le non. Donc quand vous leur dites non, ils n'acceptent pas et ils se mettent devant, ils bloquent l'entrée. Alors là, à ce moment-là, voilà, il faut mettre de côté la personne, mais la personne résiste. Donc à ce moment-là, ben, on met un petit peu plus de force et voilà. Mais c'est déjà arrivé que la police intervienne sur des altercations que j'ai eues avec des clients. Et oui, c'est normal. Quand je te dis sors, c'est sors. Qui que tu sois, c'est... Voilà. Même des amis des patrons, parfois, c'est déjà arrivé, quoi.
Non, désolé, je vous dis, c'est une soirée privée, mademoiselle. Non, je suis désolé. Non, c'est... Repasserai plus... Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Non, on a dit pas les baskets. Non, pas les baskets. Vous avez quel âge?
En fait, quand tu as un club, tu cherches des profils qui sont pas des clubbeurs pour travailler. Tu les cherches vraiment. Et c'est une denrée rare. Qui sont pas passionnés par la nuit. Parce que dès qu'ils se passionnent un peu pour la nuit, malheureusement, de par l'emplacement dans lequel ils se trouvent, être barman dans un club branché, c'est devenir soi-même branché. C'est être forcément happé par ce que moi j'appelle un peu les vautours de la nuit, c'est-à-dire ceux qui vont très rapidement te mettre un truc dans la bouche ou dans le pif. Et tu peux très très vite tomber dans les zones sombres du truc. Donc ça, c'est un truc quand même, dans les métiers de la nuit, c'est quand même un gage de réussite. J'en connais, hein. Il y a des gens qui travaillent depuis 30 ans dans la nuit, derrière des bars, à des entrées, derrière des vestiaires, etc., qui sont des gens qui ne boivent pas, qui sont des gens qui ne se droguent pas, etc., et ils tiennent, et ils gagnent très très bien leur vie. Très très bien, ils travaillent 4 ou 6 fois par mois, et ils se font leurs 3000 balles nettes tous les mois pour travailler 4, 5, 6 nuits par mois. Donc c'est un vrai choix de vie aussi, mais c'est la seule solution.
Moi c'est Palma, ici je travaille au bar, donc on a deux bars cocktails au Jalousy, on en a un en bas qui est un petit peu plus pour les DJ, donc c'est de l'alcool assez rapide, des softs. Et en haut, ici, on a un bar cocktail et donc on a beaucoup, beaucoup de produits à la carte. On fait ce qu'on appelle la création. Et donc, ça, c'est le client vient et choisit, par exemple, le type d'alcool qu'il veut avec le type de fruits. Et nous, on fait de la création et on invente un cocktail sur mesure aux gens. Et oui, moi, ça fait un an que je travaille ici. Un an et demi, un peu plus. Et c'est de nuit. Donc ici, le Jalousy, c'est toujours les mêmes horaires. On commence à 22h, on termine à 6h30 du matin. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu décalé, mais c'est pour ça aussi ça qu'on recherche. On a des gens qui sont un peu décalés, qui sont là vraiment juste pour la musique, pour les DJ et pour les cocktails. Et donc c'est chouette, on a une passion commune avec nos clients. Et vraiment c'est ça que j'aime dans ce milieu, c'est le fait de partager. Je veux dire, moi j'ai fait l'université ici à Bruxelles, j'ai fait du journalisme, j'ai bossé dans des boîtes de pub et j'aime bien. Mais le côté bar, il y a un côté artiste qui a de création de cocktails et de passion des alcools aussi, parce que c'est quand même beaucoup un milieu de passionnés. Et au final, moi, c'est pour ça que ça fait 6 ans, je suis restée à bosser dans les bars, alors que je bosse sur le côté en pub la semaine et que je préfère bosser de nuit et j'attends même le week-end, quoi. Je suis vraiment contente quand le week-end commence, parce que je sais que je vais partager avec des clients, qu'on va découvrir des choses. Puis on a beaucoup de clients internationaux aussi ici, ça c'est très chouette. Ils nous recommandent des alcools, puis avec notre patron, on les commande, on découvre, on échange.
La nuit, les gens sont vrais, dans le sens où ben, quand une personne boit de l'alcool, il y a sa vraie personnalité qui se dévoile. Et j'ai envie de dire que de ce côté-là, on voit la vraie nature des personnes. Et quand on a des discussions avec les personnes, c'est un petit peu plus, on va dire, poussé, etc. Mais voilà, la nuit, c'est fatigant psychologiquement. C'est pas nécessairement fatigant physiquement, mais c'est psychologiquement. C'est très...
Ah ouais.
Très, ouais, ouais.
C'est... Pourquoi,
bah, dormir la journée, c'est pas bon. Hein. Moi, quand je rentre chez moi, ma chambre, tout est noir. Mais le problème, c'est que voilà, parfois il fait chaud, parfois... Donc c'est pas les bonnes conditions pour avoir un repos réparateur. Et parfois, on se réveille avec des migraines. Voilà, c'est... Voilà.
Et c'est indiscret de vous demander votre âge ?
J'ai 34 ans.
Ouais, et ça fait combien de temps que vous travaillez de nuit, vous avez dit ?
Ça va faire... 14 ans.
Et vous sentez que le corps il s'abîme un peu, le fait de travailler la nuit ?
Bien sûr. On est plus... J'ai eu des accidents, on a eu des bagarres, on a eu des... On a des blessures, on a beaucoup de choses, et c'est fatigant, c'est...
Et vous voyez faire ça encore longtemps, toutes ces nuits ?
Non. Maintenant, je suis bientôt papa d'un troisième enfant. Donc, c'est... Moi, je m'étais donné, avant de connaître le Covid, je m'étais donné 35 ans. Donc, à mes 35 ans, j'arrête. Mais bon, il y a eu 2 ans de pause. Et donc, ça veut dire peut-être que je vais rajouter encore 1 an. Peut-être encore 2 ans, je ne sais pas. Mais je ne pense pas.
Et c'est bien payé ici, la nuit ?
Bah, on est au barème, hein. Malheureusement, il n'y a pas de prime de risque. Dans le secteur, c'est ce qui nous manque, en tout cas pour les agents de gardiennage qui font des portes la nuit. Comme je dis souvent, on n'est pas payé pour se faire taper. Et on n'est pas payé non plus pour taper les gens. Et jamais vous n'entendrez quelqu'un dans le milieu du gardiennage de nuit déposer un certificat médical ou un arrêt maladie. Parce que ce n'est pas dans notre logique. On est là pour de la sécurité des personnes. Et c'est normal de se prendre des coups, en tout cas pour moi. Mais je trouve qu'on devrait être un petit peu mieux, être valorisé.
Les gens se confient en fait au barman, parce que pour eux, c'est... on se parle une fois et puis on se verra plus. Et donc parfois, j'ai des conversations super intenses avec des clients qui m'expliquent. Et puis comme on est de nuit aussi, les gens ont une vie en général super chargée. Donc c'est ici qu'ils peuvent se lâcher. Et moi, c'est un peu la même chose. Donc c'est à base de blagues. Ou alors, il y a des blagues, il y a des clients, on a des blagues récurrentes sur des mois. On rigole beaucoup, on se voit toutes les nuits en mode « qu'est-ce que tu fais encore ici ? T'es reparti ici ? Et toi alors, qu'est-ce que tu fais à bosser ?» Ça aussi, c'est le côté un petit peu... on sait qu'on se retrouve tous pour la même chose, quoi. C'est des heures où on se retrouve pas par hasard.
Et vous comptez faire ça encore assez longtemps ou pas ?
Je crois oui, le plus longtemps possible. Je travaillerai toujours dans la pub parce que j'adore ce côté statistique et digital. Moi, j'ai fait mon master en digital et j'aime beaucoup ça. Mais j'arrive pas à me détacher des bars parce que j'adore ça, en fait. Je vois pas le temps passer. C'est vraiment... j'arrive à 22h et puis il y a que des commandes dans ma tête et des discussions. Et puis parfois, il est 6h du mat et voilà, quoi, c'est fini. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve nulle part ailleurs.
Alors, Daria, est-ce que vous pouvez nous faire visiter un peu votre lieu là?
Oui, bien sûr. Ici, on est à l'entrée de chez Oumi. Donc, c'est ici qu'on accueille les clients, que ma collègue Juliette, à l'entrée, vous fait le petit pitch d'entrée pour vous expliquer les quelques règles de bienveillance et de bon comportement du lieu. Et donc, suivez-moi. On va passer le sas. Ici, on arrive. En bas, on a des lockers. Ici, on a une machine d'éthylotest pour être sûr que les gens rentrent sains et saufs chez eux, parce que pour nous, le bien-être des gens est super important. Ensuite, on va arriver à la piste de danse. Voilà, on a un photomaton là-bas dans le bout. On a le bar juste là-bas. Là, il y a le DJ avec toutes ces personnes qui sont en train de danser. Et à l'étage, on arrive à la mezzanine. Au niveau de la mezzanine, on a la chill room, qui est assez agréable, qui est mon endroit préféré du club. Et on a le fumoir. Voilà. Et la mezzanine, elle donne sur le DJ booth et la piste de danse. On a là-bas aussi quelques tables pour les gens qui préfèrent se poser et écouter du son. Et ensuite, on arrive au studio. On arrive au studio qui est du coup notre qui n'est pas encore ouvert actuellement et qui est du coup notre troisième salle, ou bien deuxième si on compte pas la chill room, qui est un petit bijou fait par mon associé. Donc c'est la salle la plus insonorisée qu'on ait, et voilà, la voici. L'acoustique ici est très très bonne et c'est la salle préférée de pas mal des artistes qui sont déjà venus jouer ici. Moi, je m'appelle Daria, je suis propriétaire, heureuse propriétaire de Oumi, Club and Culture. C'est un nightclub qu'on a fondé il y a un an avec mon compagnon de vie et de travail depuis 7-8 ans. Et en fait, c'était un rêve commun qu'on avait tous les deux et une passion pour l'art, la musique et la nightlife. Et voilà quoi, donc Oumi, c'est un lieu qu'on a construit de nos mains. Donc c'est un club DIY, do it yourself. Ça, c'est du coup mon endroit préféré. C'est la chill room que moi j'aime bien aussi appeler la dream room, parce que c'est un peu ici que les rêves se réalisent, on va dire. Entre deux pas de danse, les gens peuvent venir ici pour se relaxer un peu, écouter de la musique ambiante, et surtout on a notre care team avec notre helpdesk. Et c'est ici qu'on vend du... En fait, c'est juste là-bas, le petit desk que vous voyez là-bas. On sert du thé, du café. Et en fait, ce qu'on appelle un helpdesk, c'est juste un desk de conseils, entre guillemets, de soins ou de prévention. On a pas mal de matériel de réduction des risques. Et on a du personnel qui est formé, qu'on appelle du coup la care team. Ils sont toujours en binôme. Il y en a un qui va tourner partout dans la salle, veiller à ce que tout le monde soit le mieux possible et que se sente le mieux possible. Et une autre personne qui reste là, dans le helpdesk du coup, pour soit donner des conseils à certaines personnes qui en ont besoin, soit c'est un peu la personne de référence. Si une personne se sent mal à l'aise, a subi une agression quelconque ou quoi, il y a un endroit direct où elle peut aller et elle sait qu'on va prendre soin d'elle. Donc c'est plutôt un soin de ce qu'on appelle la victime. Et on a la sécurité que vous avez rencontrée à l'entrée. Donc là, on avait Didier et Marino qui vont plutôt s'occuper de l'agresseureuse pour juste tout simplement que ça ne se reproduise pas. Et donc moi, j'aime bien ce cocon-ci, la chill room, parce que je trouve que on se sent un peu dans un cocon, quoi.
Et c'est une question idiote, mais vous aimez travailler la nuit ?
Si j'aimais pas ce métier, j'aurais arrêté, parce que c'est clairement pas ça qui me fait vivre. Donc c'est un métier passion, en fait, à 100%.
Je ne sais pas si on est plus libre la nuit. Bon, encore une fois, il faudrait se garder de toute généralité. Quelqu'un qui travaille la nuit n'est pas libre de ses nuits. Bon, évidemment, quelqu'un qui sort la nuit et qui a les moyens, je dirais, non seulement financiers, mais déjà d'emploi du temps, de ne pas devoir se lever aux aurores, comme on dit, et quelqu'un qui sans doute se sentira plus libre la nuit. Ce qui est intéressant, c'est peut-être pas de penser en termes génériques comme ça, mais de voir ce que la nuit offre en termes de liberté que le jour n'offre pas, et réciproquement d'ailleurs. Quelle liberté de la nuit, spécifique à la nuit, c'est plutôt une liberté de retranchement par rapport à l'espace public. Une liberté de ce point de vue-là plus privée, y compris dans les corps. Parce que effectivement, les gens ne s'habillent pas de la même manière le jour et la nuit quand ils sortent la nuit. Je veux dire, y a des impératifs vestimentaires qui sont ceux, disons, d'une certaine forme de... passe-partout, si je puis dire, du jour, que, en principe, ça dépend des individus évidemment, mais que l'on peut remettre en cause la nuit. Il faut donc penser la nuit, à mon avis, comme une liberté sous condition, évidemment, comme toute liberté, mais une liberté où ceux qui ont la chance de pouvoir s'y... le choix d'abord et la chance ensuite de pouvoir s'y consacrer, eh bien, craignent moins le regard des autres, à condition qu'on y voit un peu moins bien, justement, que ce soit pas une nuit inondée par cette lumière blanche.
Alors, est-ce qu'on peut venir un peu précisément au type d'événements ? Est-ce que vous pouvez les évoquer, ce que vous proposez comme soirée ?
Tout à fait, là, avec notre collectif Braggy Pufferfish, on a pour l'instant donc, le clubbing naturiste.
Loki Starfish, Paris.
Avec le collectif A22232, avec qui on travaille, et où on fait du coup un clubbing qui est nu, qui n'est pas une sex party, et où il y a des DJ, des performances, des stands, et qui s'inspire vraiment des valeurs naturistes premières de convivialité, d'humanité, de partage et de joie, enfin, et de bien-être, et de vivre un moment sans téléphone portable de façon nue. Ouais, voilà. La soirée s'appelle Beautiful Skin. Parce qu'on est quasiment les seuls en France à faire ça, enfin vraiment avec vraiment du clubbing naturiste. Il y a des soirées avec de la nudité, mais aussi avec du sexe ou du club où la nudité et le sexe sont autorisés. Mais nous, on est vraiment sur une, entre guillemets, radicalité. Voilà. En fait, ça se passe. On essaie de faire une expérience qui soit assez simple pour les gens, où en fait, les gens arrivent et on leur donne un sac et une pochette avec dans lequel ils et elles peuvent mettre leur carte bleue et éventuellement leur cigarette et leur cash éventuellement. Et pas de téléphone. Les personnes laissent tous leurs vêtements et à l'exception de leurs chaussures, parce qu'on est en club et que voilà, les gens vont danser, il faut quand même se protéger un peu. Ils laissent tout ça dans un sac. Et après, ça se passe un peu comme une soirée normale en fait en club, à part que les gens sont nus. Et voilà, il y a des DJ sets, des performances, des stands de prévention, des stands aussi interactifs avec du body painting ou des massages ou des photocalls des fois, où on essaie de diversifier la proposition et d'avoir des modules comme ça autour desquels les gens vont pouvoir échanger aussi, se rencontrer. Et effectivement, le contact est très facile parce que les gens n'ont pas de téléphone et sont nus et sont dans une espèce d'immédiateté du rapport. Et voilà, c'est sur des horaires de clubbing classique, 23h-5h à peu près. Et il y a un moment où, pendant au moins 2 heures, je mixe sur un des deux dance floors. J'aime bien naviguer de la techno vénère à aussi la pop, parce que j'aime beaucoup mixer tout ce genre de musique-là. Voilà, on a plein de gens de notre collectif qui naviguent aussi comme ça d'un étage à l'autre. Voilà.
Et puis,
oui, un peu, mais je suis quand même. Je suis trop focus sur l'orgasme. Je bois pas, je consomme pas, je suis au travail, je dirais. Il y a des moments où on lâche un peu prise, où il y a des moments de relâchement et où je vois le dance floor plein de gens nus et je dis que c'est magnifique. Et qu'ils sont dans une joie tellement primale, enfantine, et c'est hyper beau.
Luc Gziadinski, vous êtes géographe, et de plus en plus le jour s'invite dans la nuit. Comment cette activité nocturne se concrétise-t-elle ?
Ça se concrétise par énormément de choses. Hein. Cette activité de nuit, c'est l'ouverture plus tardive des restaurants, hein, l'ouverture plus tardive des bars, avec au fur et à mesure de la décentralisation, que ce soit en France ou en Europe, de plus en plus d'activités ouvertes. C'est aussi le festif, l'événementiel. Quand il y a une vingtaine d'années, on parlait des nuits blanches, et quand on parlait de nuit des musées, ça faisait sourire tout le monde. Aujourd'hui, à tous les niveaux quasiment de la hiérarchie urbaine, il y a des événements festifs, et quand ils sont nocturnes, c'est pas mal. Par exemple, une soirée des infirmières il y a quelques années, c'est devenu la nuit des infirmières. Avec toujours cette dimension spéciale. Quand vous voulez faire un trail qui soit très attractif, il faut qu'il ait une dimension nocturne. Quand vous faites un festival, quand vous faites une exposition, il faut qu'elle ait une dimension nocturne. On a l'impression que, de la même façon que les institutions sortent des murs pour retrouver une légitimité, on sort des frontières classiques du diurne pour aller vers la soirée, pour peut-être prendre une image de transgression, une image festive, mais en tout cas, que ce soit dans le travail, avec des activités de plus en plus tardives, que ce soit dans les services, que ce soit dans l'événementiel, et puis après, évidemment, dans tous les services publics qui, d'une certaine façon, essayent de s'adapter à ces nouveaux modes de vie et à cette pression-là, on a des activités qui évoluent jusqu'à, par exemple, des piscines qui ouvrent plus tard, des bibliothèques qui ouvrent plus tard, de la même façon qu'elles ouvrent parfois le dimanche, donc avec un jeu comme ça, essayer de s'adapter, alors jusqu'où on peut le faire, mais de s'adapter à la demande et en tout cas à de nouveaux modes de vie, parce qu'on est aussi dans une phase un peu de méditerranéisation de nos villes, où on a plus en plus d'envie, de terrasses, d'activités extérieures. Et Dieu sait qu'on en a souffert quand c'était la période de la Covid.
Alors Tanguy, là on est où ? Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire où nous sommes ?
Alors, là on est à la brasserie Verscuren, sur le parvis Saint-Gilles. Donc, c'est un bar saint-gillois, bruxellois. C'est un peu une institution à Bruxelles. Mais c'est un bar qui a pas mal évolué les 10 dernières années. La clientèle a un peu changé, un peu comme un peu partout, parce qu'il y a un phénomène de gentrification dans le quartier qui, on va pas vous mentir, est plutôt bénéfique pour le bar, mais ce phénomène, donc il fait partie de tout le quartier. Et nous, on essaie de garder, voilà, encore un aspect populaire dans ce bar.
Peut-être la bière à combien, là ?
Donc, on a une bière à 2,60. Dans les bars de notre gamme, elle peut être au même prix ou un petit peu plus cher, c'est-à-dire 2,70, 2,80, parfois 2,90.
Et c'est quoi votre travail ? En quoi ça consiste la nuit, là ? Vous commencez à quelle heure ? Vous terminez à quelle heure et vous faites quoi ?
Alors, les chiffres de nuit, on va commencer à 16h30. On va finir entre 2h et 3h du matin. C'est un travail assez basique de la restauration. Ici, on appelle ça HORECA, donc hôtellerie, restauration, café. Donc voilà, c'est un travail de service. Nous, on sert au bar. On vend des bières, quoi, en vrai. On vend surtout des bières. C'est le produit qu'on vend le plus, c'est la 40 centilitres de masse, quoi. Donc avant, c'était les voitures passaient, en fait. Et maintenant, donc, ils ont piétonnisé. Ça a totalement changé déjà la superficie de la terrasse. Et c'est vrai que, comme vous disiez, aujourd'hui, on a une clientèle qui est beaucoup plus jeune qu'avant. Et effectivement, ce lieu, il y a comme des règles, c'est-à-dire que on essaye de travailler selon nos valeurs. Évidemment, tout dans le dilemme du travail, hein. Ça reste une entreprise, une société de restauration, mais nous, on a très peu de tolérance envers des comportements racistes, transphobes, homophobes. Ce qui fait que même des petites remarques de l'ancienne génération, nous aujourd'hui, on leur a dit désolé. Vous pouvez pas faire ça ici, en fait. Voilà. Le soir, ça se traduit plus par un bar à débit. Donc, on envoie les bières, on n'a pas forcément le temps d'échanger avec les clients. Et la clientèle jeune, on boit beaucoup, machin. Et à partir du moment où on ferme le bar, c'est-à-dire autour de 2h, nous, on range la terrasse. Et après, sur le Parvis Saint-Gilles, il se passe toutes sortes de choses. Complètement folle, parfois violente et parfois rigolote. C'est un peu la magie du Parvis Saint-Gilles, quoi. Et parfois, c'est pas drôle. Il y a beaucoup de bagarres de bar, hein, en soi. Voilà, il faut essayer juste que personne reparte trop blessé, quoi. Et sinon, on a assisté à pas mal de choses. Il y a une mendicité sur le Parvis qui est très présente. Ça fait partie de la communauté saint-gilloise, quoi. C'est aussi un échange, quoi.
Luc Diadzinski, qu'est-ce que la nuit soulève quand on la considère avec des publics aussi divers que les mendiants, les fêtards, les bagarreurs, les buveurs ? Est-ce que la création des maires de nuit a été vraiment nécessaire pour penser la nuit ?
Aujourd'hui, effectivement, il y a une cinquantaine de maires de nuit dans le monde, et il y a énormément de communes qui s'engagent dans ces réflexions. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, les changements de rythme des habitants des villes, notamment, parce que on est dans des espaces de temps des espaces et des temps de plus en plus éclatés, et se pose la question de où, quand, comment on fait société. Et ce temps de la nuit, c'est un temps possible pour la rencontre. Les collectivités sont aussi obligées de bouger parce qu'il y a des conflits d'usage. Que ce soit sur la lumière avec la pollution lumineuse, sur le bruit, des tensions aussi entre des individus, des groupes, des activités qui n'ont plus les mêmes rythmes. Il y a des questions d'inégalité d'accès entre hommes et femmes, par exemple, à la nuit. Plus on avance dans la nuit, moins il y a de femmes. Donc comment on fait ? Donc ça passe sans doute par l'éducation, par des questions de sécurité, mais aussi peut-être par des bus qui s'arrêtent entre les arrêts. Vous voyez, entre deux arrêts, pour permettre de faciliter les questions d'insécurité. Il n'y a pas plus d'insécurité la nuit que le jour, mais par contre, on sait que l'insécurité accompagne toute activité économique. Il y a des surcoûts, on le voit aujourd'hui, des surcoûts énergétiques liés à cette conquête de la nuit. Quand on éclaire comme ça, jusqu'au bout de la nuit, on a effectivement des coûts qu'il faut prendre en charge, ou pas. En tout cas, ça demande à être réfléchi. Il y a des demandes sur la signalétique. Voilà, donc à mon avis, on est dans quelque chose d'intéressant, obligatoire et créatif.
Nicolas Bordier, est-ce que vous pourriez nous faire visiter un peu votre Mirano, là ?
Oui, bien sûr, allons-y. Alors là, on va arriver directement dans notre couloir, ce couloir mythique qui est le couloir doré, qu'on appelle. Donc, tout étincelant le long des murs. Ensuite, on arrive directement dans ce qu'on appelle le bar du Meeting Point, un lieu de rencontre, parce que c'est un lieu circulaire. C'est un bar rond qui maintenant va nous emmener directement vers le vestiaire. Il est vrai que nous avons beaucoup de marches dans le Mirano, c'est un établissement tout en hauteur. Là, nous sommes au vestiaire avec Catalina, notre vestiairiste. Et nous allons aller directement vers les étages pour avoir une vue plongeante sur le cœur du club.
Alors, Nicolas Bordier, là on est toujours dans la nuit bruxelloise, on va de club en club. Et vous êtes quoi par rapport au Mirano ? Directeur du Mirano ?
Je suis le directeur du Mirano, ouais, c'est-à-dire je suis à la gestion générale du club. Ça va faire un peu plus de 4 ans. C'est un des plus vieux clubs de Bruxelles, si c'est pas le plus vieux, je crois. Qui était anciennement un théâtre dans les années, enfin un théâtre-cinéma dans les années 30 et qui est devenu au début des années 80 une discothèque dont on refait pas le nom, quoi. Le peuple belge est un peuple de fête, c'est un peuple qui aime sortir, qui aime se rassembler, qui aime se retrouver, que ce soit dans les bars autour d'une bière ou dans les clubs comme on le voit nous tous les week-ends.
Et ça vous plaît? Et
avant... ça plaît parce que c'est un métier. J'aime bien dire, on est les couteaux suisses, on touche un peu à tout. C'est les strass et paillettes le week-end, la nuit, et puis c'est de l'organisation, du management.
Et vous accueillez combien de personnes en général à peu près un week-end comme celui-ci?
Ça dépend des périodes. Là, on va arriver en fin d'année, donc avec le turnover, on amène quand même un bon millier de personnes.
Alors, c'est un peu trivial et un peu osé de vous demander ça, mais comme on travaille sur le travail de nuit, est-ce que vous en vivez et bien ou pas?
Oui, j'en vis même très bien, dans le sens où c'est un métier qui me plaît, c'est une vocation, c'est une passion même, je dirais, donc dans ce sens-là, je vis très bien, et sur le point de vue financier, oui, c'est bien.
Et combien vous êtes pour une soirée comme celle-là ce soir, par exemple?
Comme celle ce soir, on va être une trentaine d'employés, entre 30 et 40 employés. Et ça peut monter sur certains gros soirs à plus de 60 personnes, entre 60 et 80 personnes. Nous sommes là pour faire la fête aux gens, tout en nous amusant également. Hein. Ça reste un métier qui est plein de fun. Mais nous, on a besoin de garder toute notre tête, notre esprit. Nous, en tout cas, au sein de l'établissement, on interdit la consommation que ce soit d'alcool et surtout de drogue dans nos équipes. Surtout qu'on travaille avec des jeunes collaborateurs et ce serait triste d'avoir de mauvaises nouvelles le lendemain à cause de bêtes choses, quoi.
Et comment vous managez vos équipes?
On aime beaucoup avoir des jeux en interne, des petits challenges qui va permettre de se rivaliser les uns les autres, mais tout en ayant un côté bon enfant. Et ça peut être à celui qui va vendre la plus grosse bouteille, ça peut être à celui qui va servir le plus de shots, ça peut être... c'est des petits jeux en interne avec des petites récompenses qu'on peut amener, nous, avec la direction, pour justement motiver un peu les équipes dans ce sens, quoi.
Donc aujourd'hui, le métier de la nightlife, et quand on parle de la nightlife en général, certes, on est en crise. Pour me mettre moi, par exemple, en exemple, en tant que patronne de club, ça fait qu'un an qu'on est là. Je vis dans la précarité parce que ça fait un an que je gagne exactement 0 € par an, annuel. Donc c'est ça. Et les coûts sont toujours là, donc c'est très compliqué. Je reçois des aides sociales parce que je n'ai pas trop le choix. Et au début, je vivais ça un peu avec une certaine honte, mais là maintenant, j'assume parce que j'espère un jour pouvoir me payer. Et actuellement, comment est-ce qu'on fait pour être rentable avec les locations? Et tous les clubs vous diront la même chose. C'est les locations en semaine, la privatisation des lieux qui fait qu'on puisse tenir le coup et continuer à proposer des événements qualitatifs. Le panier moyen par consommateur, enfin par visiteur est passé à 30 ou moins de 30 € par soirée. Donc c'est entrée comprise et boissons comprises. Les gens aujourd'hui ne boivent plus. Les gens aujourd'hui ne consomment plus. Et c'est une triste réalité. C'est surtout un gros problème. Les gens veulent tout gratuit. Ils veulent pouvoir rentrer gratuit en club, ne pas payer leur consommation et passer une bonne soirée. Sauf qu'après ça, ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'il y a des gens derrière qui font en sorte que tout ça soit possible. Mais si jamais on n'aide pas ces personnes-là à rendre cela possible, mais bientôt les endroits de fête n'existeront plus.
Avec le clubbing, ouais. J'ai très très bien gagné ma vie. Je me suis acheté une maison avec ma première activité. quand j'étais au Mirano.
Renaud Derue.
Je me suis acheté une maison grâce à ça, ça m'a mis à l'abri pour la suite. Du coup, j'ai gagné beaucoup d'argent après. Enfin, j'ai gagné de l'argent moins, mais j'en ai gagné. Et malheureusement, parce que ça fait quand même partie du game, malheureusement, je suis tombé complètement accro à la cocaïne. Après. Au départ, j'en ai pris un peu parce que comme tout le monde, hein, je veux dire, c'est sympa, c'est rigolo, t'es DA dans le club, on t'en propose parce qu'on a envie d'être ton pote, un peu, on a envie d'avoir des guests, donc c'est sympa de mettre un peu de poudre dans le pif du gars, et moi je l'ai accepté avec plaisir, et puis en fait, étrangement, j'en prenais un peu tous les week-ends, en fait, depuis pas mal d'années, et en fait, c'est pendant le Covid que je me suis rendu compte que je savais plus m'en passer, en fait. Et là, j'ai réalisé. Et donc, j'ai fait 1 an de cure. Ça fait maintenant 3 ans que je touche plus du tout, à aucune drogue. Et en fait, je vois du coup les choses totalement différentes. Alors, c'est sûr, c'est plus compliqué de tenir. Mais en fait, je suis tellement touché l'enfer de l'addiction, tu vois, où tout part en couille, quoi. Tu te fais un rail avant de faire le biberon de ton fils, quoi. Tu vois, ce jour-là, j'ai réalisé. C'est ce jour-là que j'ai réalisé. Que, voilà. Et donc, en fait, ça, c'est un gros danger de ce métier. Je sais pas très bien si dans les autres métiers de la nuit c'est omniprésent, mais je pense quand même, parce que je connais des gens qui travaillent la nuit dans d'autres trucs, et je sais que voilà, c'est un peu là. La nuit, y a rien à faire, hein, c'est un délire. Hein.
Y a une autre. T'aimais travailler la nuit, toi ?
Alors moi, j'aime moins ça aujourd'hui. Peut-être parce que je prends plus de cam aussi, mais j'aime moins ça aujourd'hui, peut-être parce que aussi j'ai 46 ans et que j'ai des enfants et que j'ai envie que mes moments avec eux soient très réussis. Donc peut-être que tout ça. Mais en fait, la nuit, il faut quand même un peu tenir, surtout si tu veux en fait entretenir une vie de jour quand même, ce qui a toujours été mon cas. Ça, c'est toute la différence. Je connais plein de gens qui ont décidé à un moment de vivre la nuit, qui étaient des gens talentueux. Je te parle de DJ, je te parle de promoteurs, de gens qui travaillent dans la pub, etc. Et en fait, ils sont tombés dans la nuit. Ils sont tombés par la nuit. Dans la drogue, machin. Ils se levaient plus le matin. Et il se réveillait à 17h, il se couchait à 9h30, 10h, 11h, midi, et c'est devenu la boucle. Moi, je me suis toujours levé le matin, ça a toujours été un truc. Je pouvais me mettre la tête à l'envers autant que je pouvais. À 9h, 10h du matin, je devais être debout. C'est peut-être ça qui m'a sauvé, d'avoir quand même une vie à côté. La nuit peut pas être juste la vie, en fait. Ça, c'est pas possible.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10.
Il y a eu le milieu de la nuit avant et il y a eu le milieu de la nuit maintenant. Avant, on ouvrait une boîte de nuit parce qu'on aimait danser, on aimait faire la fête et puis on se disait, allez, on va aller divertir les gens, on va aller avec les copains et puis on va faire quelque chose. Maintenant, je pense que comme beaucoup de choses se sont complexifiées, que ce soit sur les points de vue gouvernementaux, que ce soit sur les points de vue organisationnels, etc., maintenant c'est devenu un réel business. Donc on doit avoir des notions de management et d'entrepreneuriat pour tenir quelconque entreprise de nos jours, je pense.
La nuit a des avantages, et enfin moi, m'a construit, mais d'un côté, m'a aidé à me construire, et la nuit m'a aussi apporté des problèmes, comme des problèmes d'addiction que j'ai réglé maintenant depuis 2019, mais c'est vrai que c'est un problème. Moi, j'ai commencé la nuit, je ne me droguais pas, je ne buvais pas d'alcool, et en fait, on veut faire comme tout le monde, et du coup, c'est pas toujours très bon. Mais en tout cas, je vous encourage, si vous commencez la nuit, ne commencez pas à partir dans des travers, vous êtes au travail. Du coup, ce qui est important, c'est les réactions du public et de tout faire pour animer pour le public. Voilà. Mais sinon, c'est un beau métier.
Est-ce que vous êtes épanoui dans vos nuits aujourd'hui ?
Je suis épanoui dans mes nuits comme dans mes jours. Je suis très bien accompagné dans la vie, autant avec mon mari que par ma famille, mes amis, et on ne pourrait pas faire correctement ce métier si on n'est pas stable dans la vie, je pense.
Ouais, c'est des clichés de penser qu'il faut être un peu destroy.
Exactement. Après, il y a des moments où vous pouvez profiter, mais pas au travail.
faire ça encore longtemps, travailler la nuit en servant dans un bistrot comme le Verskuren?
Je me projette sur encore quelques années.
Vous avez quel âge?
J'ai 25 ans.
Et est-ce qu'après votre boulot, vous allez faire la fête ailleurs? Vous allez en after dans d'autres bars?
Oui, quasi systématiquement. Le samedi soir, on va finir vers 2-3 heures et en fait, donc on commence notre soirée, on boit un petit verre après le shift, ici, sur place. Plus souvent, on va en soirée voilà, à partir de 3h, 3h30. Bon, pas trop tard non plus, mais on commence notre soirée. Et souvent, ce qui est marrant, c'est que du coup, on croise toute la clientèle qu'on a servie le soir même. On la croise de soirée, on va après, donc c'est assez marrant.
Et est-ce qu'il y a une heure de la nuit qui est plus difficile ou pas?
Alors ça c'est particulier parce que moi je dors pas beaucoup et justement ça, j'en ai fait une force parce que j'ai vraiment du mal à dormir, mais ici moi c'est...
Combien de temps vous dormez?
3-4 heures par nuit, on est à ça, mais c'est plus que je veille très tard sans faire exprès en fait. J'aime bien, à la base j'étais artiste donc je dessinais beaucoup et là justement je me retrouve avec des gens qui eux aussi sont éveillés de nuit. Et je trouve que de nuit c'est un autre rythme en fait, la ville est éteinte, il n'y a pas un bruit, on sort dehors, il n'y a pas de lumière, enfin on sent vraiment que c'est feutré comme ça. Et donc c'est comme si le moment était que pour nous. Donc moi j'aime beaucoup le fait de travailler la nuit, je trouve que ça donne une autre ambiance en fait au travail.
Comment ça va se terminer cette nuit là?
Vers 7h, on va se poser tous entre collègues, on va s'asseoir ici, moi je fume plus mais mes collègues vont allumer leurs cigarettes et on va parler du service pendant un petit moment parce qu'en fait c'est ça qui est difficile. Quand on a travaillé la nuit comme ça, en fait on a l'habitude de travailler en journée et quand la journée finit à 17h, on a le moment entre guillemets de pause. Donc on a envie de manger, d'aller voir ses amis, etc. Mais là le problème c'est qu'on est censé aller dormir direct après le travail en fait. Et donc on a tous ce fait d'avoir beaucoup d'énergie et on n'arrive pas à la dépenser. Et donc souvent on finit par parler, même parfois jusqu'à midi quoi. Et donc on reste ici à discuter. Puis parfois je rentre en voiture, il est 10h du mat, je me dis mais qu'est-ce que... Et alors je suis à la maison et je me dis bon allez, je vais quand même encore aller lancer une machine au coup, parce que je suis active en fait. Mais après au bout d'un moment on s'effondre. Et donc le lendemain on se regarde et ça va, t'as su dormir quelques heures? Oh ouais, je me suis effondré. Souvent la même chose, ouais. C'est vrai que pour décrocher du taf c'est quelque chose.
Michael Fossel.
Le chant du coq, qui marque donc l'aurore, c'est le moment où tout d'un coup reviennent la culpabilité, la question qui suis-je, moi qui suis encore réveillé, moi qui suis, qu'ai-je fait de ma nuit en gros. Bon. Et donc il y a dans la vie alors du noctambule cette fois-ci toujours ce moment très désagréable du retour, du moment où la nuit s'arrête. Et c'est toute la grande difficulté de la vie, de la nuit, au fond, c'est comment en sortir, sans en ramener trop de traces qui vont de la gueule de bois à l'épuisement et à la dépression. C'est la difficulté de l'insomniaque, comment sortir de cette nuit d'insomnie et devoir aller au travail ou vivre sans montrer par sa fatigue ou par les traits de son visage sa détresse, et certainement aussi celle du travailleur de nuit, sortir de la nuit et rejoindre le jour pour y dormir ou pour s'y reposer alors que les autres sont éveillés. Alors c'est la part, je dirais, tragique de la nuit ou de la vie nocturne, c'est que nous vivons dans des sociétés diurnes majoritairement et par conséquent il faut toujours trouver, enfin il faut essayer toujours de trouver des aménagements, des transitions de la nuit au jour et même parfois sortir de la nuit plus radicalement que sortir d'une nuit, mais décider que la nuit ne sera plus notre espace d'expérience ou de travail, ou essayer de trouver les moyens qu'elle ne soit plus l'espace de l'insomnie. Et généralement, on habite moins la nuit, on travaille moins la nuit, passé un certain âge, parce que physiologiquement c'est plus difficile, psychologiquement cela suppose parfois une grande solitude, et aussi parce que parfois on est lassé de ce qu'il peut y avoir de répétitif aussi dans cette forme d'associabilité. Donc la nuit n'est ni le lieu du plaisir, ni celui de la douleur. En tant que telle, elle est simplement un lieu alternatif au jour. Et en définitive, elle est faite de ce que nous pouvons et désirons y faire. Mais la quitter n'est pas forcément tragique.
La toute fin de la nuit, c'est à la fois le moment où on pourrait rebasculer dans le monde réel, entre guillemets, ou le monde plus commun de tous, et où on a aussi le choix de dire bah non, je vais me coucher, je m'extrais à nouveau de ce monde-là et je choisis d'aller m'enfermer à le moment où tout le monde se réveille et sort de sa nuit. Et c'est aussi un moment, un espèce, souvent ce sont des espèces d'instants qui sont hors du temps la nuit où on voit pas passer le temps, on a plus les repères ni géographique, ni climatique, quand on est dans des espaces fermés. Et où, Oui, et oui, en plus si on a pris des substances ou de l'alcool ou qu'on est juste grisé par la joie, ça peut passer d'une vitesse folle et on a l'impression d'avoir vécu un rêve éveillé quelque part. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ces moments-là. C'était Clara Luciani qui en parlait en disant qu'elle n'aimait pas les levées de soleil, elle n'aimait pas les fins, elle faisait toujours en sorte de partir avant la fin de quelque chose pour ne pas vivre les fins. C'est vrai qu'on y est confronté quand on est acteur, actrice de la nuit. Si on fait le travail jusqu'au bout, on expérimente ça. Le moment où c'est fini, on se retrouve parfois seul ou alors en plus petit nombre. Après, moi, c'est vraiment ma façon de faire, mais il y a des gens qui arrivent, après avoir organisé quelque chose, à continuer à faire la fête pour se détendre derrière avec des amis. Moi, j'arrive pas trop. Je préfère me préserver pour pouvoir récupérer et pouvoir retravailler assez vite derrière. Voilà.
Si c'était à refaire ce métier de la nuit, là, ouais. Tu ferais ou pas?
Ouais, je le referais, ouais. Ouais, je le referais. Je ne sais pas quelle maladie m'attend à cause de ce métier. Hein. Et peut-être que je dirais pas la même chose si un jour on me détecte de la merde. Parce que j'imagine que voilà, enfin, mon corps n'a pas toujours été respecté par moi à cause de ce métier. Mais ouais, à refaire, je le referai.
C'était La Nuit au Travail, Nuit Rose au service de la fête, avec Morgan Taylor, Lova la Diva, Fiona Delfion, Drag Queen, Loki Starfish, DJ et organisateur de Beautiful Skin et La Velue, Michael Fossel, philosophe, auteur de La Nuit, Vivre sans témoin, Renaud Derue, DJ, producteur, disquaire et patron du club privé Jalousie, Abdel, portier et Palma, créatrice de cocktails au Jalousy Club, Daria de Trostenberg, cofondatrice de Lumi Club, Luc Giadinski, géographe et chercheur en Night Studies, Tanguy, serveur et co-responsable de la brasserie Verskuren, Nicolas Bordier, gérant du Mirano Club. Extrait de La Maman et la Putain de Jean Eustache. Merci à Arthur Verskuren, Maxime Vandenpla, Nathan Pujadas et Lorenzo Serra de Brussels by Night, Aristide Bianchi, Anne-Sophie Papillon, Quillian Nera, Mélanie Roussel. Documentation sonore, Antoine Vuillose. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau et Emmanuel Laurentin. La Nuit au Travail, Juliette Boutillier, François Test.
Find a place where there's so much space.